La revue de presse, Claude Ascolovitch, et on parle de courage ce matin.
Et La Croix, qui est un journal rare par sa curiosité des autres, est allé en Inde rencontrer des frères humains, ces intellectuels qui osent encore contester le nationalisme qui a pris le pays sous le Premier ministre Modi. C'est une université de sciences sociales à New Delhi, qu'on disait rouge et dont les fresques murales chantent les vieilles révolutions et fustigent le capitalisme, le patriarcat, les inégalités, mais les graffitis pâlissent et la fac est menacée par des étudiants proches du pouvoir. Ce sont des artistes censurés par le cinéma, mais qui parlent sexualité et amour intercaste sur des plateformes de streaming. Ce sont des écrivains qui osent témoigner pour les musulmans mis à l'index. C'est la grande écrivaine Arundhati Roy qui peste contre le temps perdu. On a abandonné, dit-elle, l'écriture de l'histoire nationaliste et maintenant ceci triomphe, censure, menace, crie au blasphème et arrête des étudiants. L'Inde se situe à la 140e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, mais loin des médias devenus l'agence de publicité du pouvoir, des dissidents étudient l'œuvre de Amji Ambekar, qui fut le père de la constitution indienne et le leader des intouchables. Il ne trichait pas Ambekar avec la brutale identité de son pays. Il est une espérance aujourd'hui pour ceux qui restent, auxquels La Croix donne 2 pages, et nous ici, 1 minute, un peu plus, pour ceux qui espèrent en Inde. Dans le Figaro et sur les sites du Monde et de Libération, vous lirez le nom d'un universitaire dont le domicile hier a été encerclé par 10 véhicules et 20 hommes en uniforme. Et c'est ainsi que Xu Zhangrun, écrit le Figaro, a été avalé par l'opaque machine à broyer les âmes de la Chine communiste. Ce professeur de l'université de Tsinghua était une des dernières voix dissidentes en Chine. Il avait analysé en 2018 la dérive totalitaire du régime de Xi Jinping. On l'avait interdit d'enseignement, il écrivait quand même. Cet homme hilar en chemise à manches courte dont la petite photo illumine le Figaro, avait préparé une trousse de toilette pour le jour où on viendrait le prendre. Au moins, ils n'ont pas encore arrêté Xu Zhangrun, disait-on chez les intellectuels chinois quand on voulait espérer. Je lis ça dans Le Monde. C'est fait, il est arrêté. La police a dit à son épouse qu'il était arrêté pour avoir fréquenté des prostituées, calomnie russe banale des totalitaires. Voilà donc des courages là-bas, et nous allons-nous bien? L'humanité me rappelle que nous connûmes des héros et m'invite au souvenir de Raoul Galateau, ouvrier typographe et fondateur du maquis FTP de l'Ardèche, mort samedi avant ses 100 ans. Nous lisons aussi des courages de maintenant que nous ne devinons que trop tard. À Bayonne, raconte le Parisien Sud-Ouest, Philippe Monguillot rêvait à un simple bonheur. Il était chauffeur de trambus et un gars bien, à 1 an de la retraite qu'il imaginait dans ses Pyrénées au volant d'un camping-car. Il est descendu dimanche soir se confronter à des passagers inciviles et a été frappé à la tête et laissé en état de mort cérébrale. Une des brutes de Bayonne, vous le lirez, avait un pitbull en laisse. Tiens, dans Le Bien Public, on lit la peur que font régner d'autres molosses, des American Staff, quand leur maître ne les contrôle pas. Sylvie a été mordue en mars par un chien qui a secoué son bras. Elle en fait encore des nausées et des crises d'angoisse. Tandis ce matin, une maman, Michèle Capdevielle, se souvient de son fils Jean-Christophe, qu'elle avait élevé seule après son veuvage. Renaît alors un garçon qui avait été scalpé dans l'accident de voiture qui avait tué son père, mais qui avait grandi pour devenir garagiste, dévoué aux autres, mort poignardé le 1er juin dans une querelle de voisinage. Parfois, il est simplement brave de vivre.
On parle d'autres accidents, Claude, dans Mediapart.
Et Mediapart raconte les indemnités que l'armée française verse à ses victimes, mais après avoir négocié âprement, quand nos soldats font des dégâts humains dans les pays que nous assistons. Ainsi, en septembre 2015, Aurore Zengais, fonctionnaire de la République centrafricaine, a juste eu le temps de crier « Jésus » avant de tomber du scooter. Un blindé français lui avait fait une queue de poisson. Madame Zengais a reçu de la France 4 131 € et 9 centimes après des mois de palabres. Nous ne voulions lâcher au départ que 3 811 €. En échange, elle ne porte pas plainte. Ce sont nos arrangements. Vous en lirez d'autres et vous saurez comment on protège nos sous dans Mediapart. C'est un article dérangeant et fort bien fait qui heurte notre innocence. Les Échos pareillement nous réveillent en racontant comment un gigantesque projet gazier de Total au Mozambique, 23 milliards de dollars vont être investis. Aucun groupe privé n'a jamais mis autant dans le continent africain. Ce projet passe mal auprès des populations car l'exploitation du gaz chasse des familles de leurs villages et exacerbe les tensions dans des régions déjà touchées par le djihadisme. Dans le Figaro, un homme interpelle notre indifférence et nous alerte sur une vieille basilique, désormais musée à Istanbul, mais que le président turc Erdogan veut retransformer en mosquée. Jean-François Colosimo est le patron des éditions du Cerf, un chrétien orthodoxe à la tête d'une maison de catholiques dominicains. Il nous dit l'histoire de Sainte Sophie, Hagia Sophia tant admirée, qui dans l'Empire byzantin se voulait le point focal de l'humanité. La France doit-elle ouvrir sa bouche?
Et on se souvient d'un musicien enfin.
qui avaient du génie et qui donc donnent du talent aux journaux. Et ce matin, deux journaux qui aiment se payer de mots se font plaisir avec Ennio Morricone, L'Équipe et Libération. Il était une fois dans l'Ouest, titre L'Équipe avec un look western, cela parle de football et du Stade Rennais dont le prodige Eduardo Camavinga est convoité notamment par le Real Madrid. Ce jeune homme, lis-je en page intérieure, est bon, brut et tonitruant. Pas mal les amis. Libération, lui, titre sur fond orange, la revenante, la verte et le tonitruant, avec un grand monsieur Castex au-dessus de ses recrues, Bachelot, Pompili et Dupont-Moretti. C'est la meilleure des unes politiques ce matin où une vedette gouvernementale nous fixe par pair ou par brelant, par carré parfois, ou dans un triste alignement de vignettes Panini aux unes des journaux. Mais la politique ne nous distraira pas de Morricone, dont vous lirez de splendides agiographies dans Le Monde, Libération, Le Figaro, Télérama sur Internet. Il était capable, cet homme, de sublime musique et de sublime mauvaise humeur. Il se battit un jour, nous dit Télérama, avec un journaliste qu'il avait confondu avec son ami Sergio Leone, et un autre jour, de mauvais poil, il refusa les questions et dit « Vaffanculo » à un reporter de Libération, Guillaume Thion, qui l'en aima plus encore, car la musique de Morricone était passionnément énervée, comme lui. J'en termine. Libération me dit aussi Edo Nganga, qui fut le maître de la rumba à Kinshasa, Congo, le bantou rythme, le bantou vie. Grazie, amici.